Et maintenant, sur les ondes de Radio Albigès, retrouvez votre créneau conférence.
Cette semaine, une conférence de Christian Amiel, responsable en chef des espaces verts d'Albi, sur la prise en compte de la biodiversité dans les espaces verts de la ville. Une conférence enregistrée lors de la 4e journée de la biodiversité, le 27 avril 2017, sur le campus Font-Labour.
Donc cette première conférence ici ce matin, elle fait la suite, je dirais, à ce qu'on a vu hier soir, ce qu'on a entendu hier soir avec M. Labbé. Alors des élèves me disaient qu'est-ce qui s'est passé hier soir. On a eu l'intervention de M. Labbé qui nous a présenté les arcanes des décisions politiques qui ont amené au choix du zéro phyto aujourd'hui, et depuis janvier 2017. Et ce matin, on va voir donc avec M. Amiel, qui est le directeur des services parcs et jardins, espaces naturels et environnement de la ville d'Albi, la mise en œuvre de cette politique de zéro phyto, de façon très concrète, et en particulier l'impact que ça va avoir sur la biodiversité. Hein. Voilà, donc M. Amiel, après avoir été à Annecy, puis à Castres, aujourd'hui vous êtes directeur du parc et jardins d'Albi. Voilà, vous allez nous présenter un peu la prise en compte de la biodiversité dans les jardins d'Albi aujourd'hui, la réalisation, les difficultés et un peu les problématiques que vous avez pour mettre en œuvre tous les enjeux qui se posent aujourd'hui.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christian Amiel, je suis le directeur du service des parcs et jardins de la ville d'Albi depuis maintenant presque 10 ans. Donc, après avoir exercé dans différentes collectivités, donc je travaille actuellement sur Albi et j'en charge donc les parcs et jardins. Alors, les parcs et jardins, dans une collectivité, vous voyez très bien à quoi cela peut correspondre. Hein, c'est l'entretien des parcs, des squares, des jardins historiques, des arbres d'alignement, notamment. Et je m'occupe également de la gestion des espaces naturels. Pour vous dire tout simplement que depuis quelques années que je travaille maintenant, mon métier a profondément évolué. Si au début de mon parcours professionnel, on se préoccupait essentiellement de la partie espace vert, et quand je dis de l'espace vert, c'est l'espace vert strictement horticole, que l'on peut classer dans les catégories 1 de la gestion différenciée pour celles et ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on a évolué vers une gestion qui prend en compte notre environnement paysager, mais aussi qui prend en compte tout le potentiel en faune et flore que l'on essaie de valoriser au travers d'un certain nombre d'actions. Donc aujourd'hui, on n'est pas simplement dans une gestion purement horticole, purement chimique de l'ensemble des parcs et jardins. On maintient sur certains sites une gestion horticole sans intrants chimiques et on travaille actuellement notamment sur la diversification et l'entretien de nos espaces. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter en plusieurs points. Donc, une rapide présentation du service. Ensuite, les actions qui sont menées sur les milieux humides pour préserver la biodiversité. Les actions qui sont menées sur les oiseaux. Ensuite, sur les insectes et la microflore, la flore spontanée et cultivée. Et bien entendu, le sol. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de critères qui, autrefois, on ne se préoccupait absolument pas. On ne se préoccupait pas des milieux humides, ni des oiseaux, des insectes, de la flore spontanée. C'est vraiment des aspects que l'on a découverts depuis un certain nombre d'années et que nous avons travaillé sur Albi parce qu'on s'est toujours préoccupé de notre environnement. Alors, pour tout vous dire, on ne décide pas du jour au lendemain à faire de la protection de l'environnement ou du développement durable ou de la protection de la biodiversité. Il faut que ces notions fassent partie un petit peu du personnage, de soi-même. Vous n'allez pas faire ce type d'action si vous n'y croyez pas vous-même. Et surtout, si vous n'allez pas si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas travailler avec des équipes de jardiniers. Vous n'allez pas pouvoir les motiver, les former, les aider à travailler en ce sens. C'est la raison pour laquelle il faut déjà soi-même avoir une affinité dans ce domaine pour pouvoir travailler avec les équipes. Parce que ce qui est très important pour pouvoir mener à bien ces différentes actions, on ne le fait jamais seul. Moi, tout seul dans mon service, je ne fais pas grand-chose. Par contre, avec un certain nombre d'agents, de collaborateurs, là, effectivement, je peux prétendre mettre en place un certain nombre d'actions en faveur, par exemple, de la biodiversité. Mais il faut que mes collaborateurs, que l'ensemble des jardiniers du service soient associés pleinement dans cette démarche. Et pour qu'ils soient associés, eh bien, il faut aussi beaucoup de pédagogie, il faut de la formation, il faut de l'écoute, il faut... Parfois les convaincre, et je dois dire que parfois cette partie-là peut être assez longue hein, au sein de service, mais sincèrement on y arrive. Et puis il y a un autre aspect, c'est que dans les services, on a toujours des agents qui ne sont pas simplement jardiniers. C'est-à-dire que vous avez des agents qui ont des affinités sur tel ou tel domaine et qui sont des outils très importants pour nous aider à mettre en place un certain nombre d'actions, parce qu'eux-mêmes ont des connaissances personnelles. Et donc, il faut pouvoir se reposer, ou du moins travailler avec ces personnes-là, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions. Donc, oui, la ville d'Albi, sur la précédente diapo, 90 hectares d'espace vert, 55 personnes qui travaillent à l'entretien des jardins, réparties en différentes équipes, dont une équipe d'espaces naturels, qui gère les espaces naturels. Et cette équipe des espaces naturels a été créée au service en 2008. Donc vous voyez, c'est une préoccupation qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors la ville d'Albi, une petite répétition pour celles et ceux qui connaissent. Nous avons la cité épiscopale qui a été classée au patrimoine mondial de l'humanité en 2010. Donc cet aspect-là, en termes de jardin et espace vert, la seule contrainte, si je puis dire, c'est qu'on a une fréquentation touristique plus importante en centre-ville ou sur les berges du Tarn ou ailleurs. Et donc ça nécessite une présence supplémentaire des jardiniers parce que tout simplement... Plus un espace est fréquenté et plus il peut être soumis à des salissures ou à des dégradations. Mais les jardins, la qualité des jardins à Albi ont contribué aussi au classement de la ville au patrimoine mondial. Ensuite, le logo en bas à gauche, c'est le logo des jardins remarquables. Donc Jardins remarquables, c'est un label qui est mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication qui valorise tous les jardins patrimoniaux. Donc sur Albi, nous avons deux jardins patrimoniaux. Le premier, c'est le jardin du Palais de la Berbie, hein, le jardin de style à la française. Et ensuite, le parc Rochegude, qui se situe boulevard Carnot, qui est un parc fin 19e, qui fait 3,7 hectares et qui a été classé jardin remarquable en 2010. Ensuite, en haut à gauche, vous avez le label Ville-Village Fleurie. Donc la ville d'Albi s'est inscrite depuis très longtemps dans une démarche qualitative sur l'ensemble de sa commune en termes d'espace vert et elle est lauréate de la quatrième fleur depuis 2002. Ce label a été renouvelé l'an dernier en 2016 car nous avons accueilli le jury à ce moment-là. Donc le label Ville-Village Fleuri fut un temps, c'était un label qui était très fleur-fleur, plus vous aviez de fleurs dégoulinantes sur les balcons, dans les espaces verts ou ailleurs, et plus le nombre de fleurs était important, si je puis dire. Or, aujourd'hui, c'est un label qui a largement évolué, même si la partie fleurie, espaces verts, aménagement paysager, horticole reste important, on a toute une partie de ce label qui évalue la partie développement durable et biodiversité. Donc, on a bien les deux phases, les deux phases de notre métier, la partie un peu plus horticole et la partie biodiversité, développement durable. Donc, le label a su évoluer au cours des années pour ne plus être qu'un label de fleurs, si je puis dire. Et ensuite, le petit logo en haut à droite, c'est le logo de la capitale à la biodiversité. En fait, l'an dernier, nous avons participé au concours des villes capitales à la biodiversité et nous avons été élu capitale de la biodiversité française pour les villes de 20 à 80 000 habitants. Donc ça, c'est un label qui récompense toutes les actions qui ont été faites en faveur de la biodiversité. Et pour avoir ce type de récompense, bon, on ne s'attendait pas vraiment, mais pour tout vous dire, on a travaillé depuis de nombreuses années pour pouvoir aboutir à ce type de récompense. C'est-à-dire que ce n'est pas au bout de 2 ou 3 ans d'action et faite en faveur de la biodiversité que vous pouvez prétendre à ce genre de récompense. Il faut savoir que pour obtenir ce label, on reçoit un jury, des écologues qui viennent à Albi scruter point par point les différentes actions, que ce soit bien sûr sur le terrain, que ce soit évidemment avec les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Et donc, à la suite donc, de la visite, nous avons un rapport de visite et ensuite il y a une session plénière dans laquelle toutes les villes sont mises bout à bout et la délibération se fait pour choisir la capitale nationale de la biodiversité qui était la ville de Rennes en 2016 et donc Albi a été désignée pour les villes de 20 à 80 000 habitants. Alors, dans un deuxième temps, tout ce qui est préservation des milieux humides. Dans les collectivités, nous avons un certain nombre de milieux humides, notamment sur Albi, nous avons la base de loisirs de Prades-Grossal, avec par exemple, nous avons un étang d'1,5 hectare et demi. Sur cet espace, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Alors, dans un premier temps, on a restauré les berges, parce que les berges étaient extrêmement dégradées, et on s'est aperçu qu'il n'y avait absolument aucune vie, aucune possibilité. Alors, il n'y avait pas forcément d'insectes où les insectes étaient relativement limités sur les berges de rivière, non seulement parce que la fréquentation des berges de rivière de ce lac était très importante, mais aussi on s'était fait gagner aussi par une végétation quelque peu envahissante. Donc il a fallu restructurer ces berges de lac pour pouvoir réinstaurer une faune et une flore. Et ensuite, nous avons installé des radeaux végétalisés. Je vais vous montrer quelques radeaux, quelques photos là-dessus. Voilà donc, en haut à gauche, des radeaux végétalisés, parce que on a installé donc quelques modules de ces radeaux sur le lac, et on les a plantés, et on s'est aperçu qu'il y avait toute une faune d'amphibiens ou d'oiseaux qui venaient se reproduire et habiter sur cet espace. Tout simplement parce que là, tout ce petit monde était complètement à l'abri des renards et surtout des chiens des différents promeneurs. C'est-à-dire qu'on a recréé un endroit de quiétude favorable à un certain nombre d'insectes et d'oiseaux. Donc, sur la droite, nous réalisons tous les ans avec la communauté d'agglomération une journée liée à l'environnement et dans le cadre de ces journées nous faisons des actions notamment de comptage avec des étudiants élèves en GPN et c'est aussi une façon de valoriser nos actions en faveur du public. Donc là vous avez Donc le radeau végétalisé, pour tout vous dire, on a commencé, le premier radeau végétalisé que nous avons installé, c'était 3 modules en 2009. On a placé 3 modules en 2009, et comme ça fonctionnait assez bien, on en a installé 2 ans après 3 autres modules, et actuellement, donc, nous sommes à 2 îlots de modules positionnés sur le lac de Prades-Grossal. Donc ici, vous avez des élèves qui sont en train de faire des comptages, donc on fait des comptages tous les ans, environ au mois de mai. Ensuite, sur un milieu humide, nous avons la mare de la Mouline. Alors, la Mouline, c'est une petite base, un espace naturel qui se situe derrière le lycée Rascol, pour celles et ceux qui connaissent. En fait, on est parti d'une mouillère. Il y avait un lieu humide, mais on n'avait pas véritablement de mare. Et donc là, c'est un jardinier qui a proposé au service de réaliser pleinement une mare. Donc ça, c'est une petite mare artificielle, mais nous avons de l'eau qui est alimentée par de l'eau naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un écoulement qui permet de remplir cette mare. Donc là, nous avons aménagé cette mare, et petit à petit, sincèrement, elle s'est végétalisée toute seule, quoi. L'important, c'est de voir que, malgré tout, sans véritablement intervention de l'homme, les plantes viennent coloniser la mare et même les amphibiens, les libellules. On s'est aperçu que, je vous dirai ultérieurement, on a travaillé avec l'OPIE, l'Office de protection des insectes et de l'environnement. On effectue quelques comptages d'insectes et on s'est aperçu qu'il y avait des libellules qu'on ne voyait pas sur les berges du Cosel, qu'on a retrouvé sur ces espaces de mare. Alors, ce qui est important aussi, vis-à-vis du public, c'est de favoriser l'accès de la mare pour que le public vienne observer ce qui s'y passe, mais un accès, je dirais, un petit peu limité, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que les personnes puissent s'approcher trop près des berges pour des questions de sécurité, mais aussi d'éviter que les animaux, notamment je pense aux chiens, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ne sont pas tenus en laisse, pour éviter que les chiens qui ne sont pas tenus en laisse viennent perturber la faune locale. Et nous mettons systématiquement un panneau d'identification et d'explication sur ce que l'on fait. Un autre aspect qui est mis en place depuis 2009 également, c'est la pose de nichoir. Alors je vous l'ai dit, c'est un aspect que l'on valorise depuis 2008. On travaille avec un institut médico-éducatif pour lequel on fournit du bois, des planches, et avec lesquelles ils construisent des nichoirs. Alors les nichoirs, quel est l'intérêt de préserver ce type de faune dans nos espaces verts, bien, on s'aperçoit que les oiseaux, notamment les mésanges, tous les oiseaux insectivores, sont très importants pour lutter contre un certain nombre de ravageurs et de prédateurs dans les espaces verts. Tout ce qui est pucerons, tout ce qui est chenilles, tout ce qui est entraide, par exemple. Donc on a vraiment besoin des oiseaux pour nous aider à ne plus être gênés par un certain nombre de ravageurs. Donc on a on a installé un certain nombre de nichoirs dans nos espaces verts. Actuellement, on en a 260, non seulement sur les espaces naturels, mais aussi sur nos espaces en centre-ville, dans les jardins, même les jardins remarquables, les jardins classés comme au Paroche-Gude, nous avons également des nichoirs. Je veux dire par là que de la biodiversité ou du développement durable, on en fait également dans les jardins historiques. Donc, le fait de faire construire des nichoirs par des élèves également, ça permet aussi de les sensibiliser aux questions environnementales et de les associer pleinement dans notre démarche de protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils construisent les nichoirs et ensuite ils viennent en poser un certain nombre avec nous. Sur la partie droite, donc, vous avez un hôtel insecte. Alors celui-ci a été fait sur la base de loisirs au Prat de Rossal et pour ne rien vous cacher, c'est uniquement avec du bois de récupération. C'est-à-dire que parfois, à moindre frais, on peut faire un certain nombre d'actions qui ne nécessitent pas forcément des budgets colossaux ou extraordinaires. Alors, des nichoirs ou des abris, on en fait également pour les chauves-souris, parce que les chauves-souris nous sont très utiles en milieu urbain pour lutter contre un certain nombre d'insectes, notamment tout ce qui est moustiques. Actuellement, ils nous aident aussi à lutter contre la pyrale du buis. Hein, c'est un prédateur du papillon. On fait des abris aussi, des nichoirs pour tout ce qui est chouette chevêche. Et ensuite, sur la droite, vous avez un abri à écureuil. Aujourd'hui, dans notre milieu urbain, nous avons de moins en moins, enfin, les oiseaux en général, ou ces petits mamies, ou les écureuils ou autres, ont de moins en moins d'espace pour pouvoir se protéger, se reproduire. Donc c'est la raison pour laquelle nous mettons en place ce type d'abri. Alors, j'ai parlé des oiseaux, mais nous avons aussi dans le parc Roche-Gude notamment des oies à tête barrée et un couple de cygnes à col noir. Donc là, c'est plutôt pour de l'ornement, mais ça permet aussi aux visiteurs de rentrer en contact avec ce type d'animal et je dois dire qu'au Paroche-Gude, il est vraiment fréquent de voir des familles, des enfants qui régulièrement viennent voir les oiseaux dans les parcs et ça crée du lien. C'est-à-dire qu'il y a une approche environnementale, une éducation à la protection de l'animal qui naît aussi à travers ce type de volière. Donc on n'a pas vocation à assurer une reproduction de ce type d'animal, ni même d'avoir une grande collection d'animaux pour mettre en centre-ville dans les parcs. Mais quelques animaux peuvent fédérer une première approche environnementale. Alors, je vais vous présenter une action qui a été faite au mois de février. Ça se passe au centre équestre d'Albi. Nous avions un bâtiment qui était extrêmement dégradé, qu'il fallait détruire parce qu'il pouvait menacer de tomber. Et sauf que la difficulté dans ce bâtiment, nous avions une colonie de, on avait repéré des nids d'hirondelles. Et vous savez que l'hirondelle est un oiseau qui nécessite notre protection parce que les populations d'hirondelles sont vraiment en régression en France. Et donc, on a souhaité préserver cette colonie d'hirondelles. Donc, pour cela, comme on devait impérativement détruire le bâtiment, on a proposé de déplacer les nids et de les positionné juste dans un bâtiment à côté. Donc, de ce fait, nous avons réalisé avec, là aussi, l'IME, l'Institut Médico-Éducatif, nous avons réussi à remodeler, à refaire des nids d'hirondelles, et ensuite, je vous montrerai, à les fixer dans un hangar à proximité. Donc, on a travaillé avec l'IME, mais on a aussi travaillé avec la Ligue de protection des oiseaux, qui, eux, nous ont conseillé, nous ont orienté sur cette action pour qu'on soit sûr de ne pas se tromper dans ce type de démarche. Alors là, pour tout vous dire, un nid d'hirondelle réalisé par les élèves, par les enfants, ça revient à peu près à 20 à 30 centimes pièce. C'est pour dire qu'en termes de budget, ce n'est pas un problème. Il faut simplement prendre le temps de le faire. En 4 heures, en une matinée, en général, c'est réglé. Hein, l'histoire pour acheter l'argile, la façonner avec de la paille et ensuite la mouler. Donc ça, en 4 heures, vous faites un certain nombre de nids, vous laissez sécher et puis vous revenez 2 jours après et vous les positionnez. Donc là, vous avez l'action qui a été faite avec les enfants. Et puis sur la partie droite, on essaie de communiquer aussi sur nos actions. Parce qu'il est bien de savoir de faire un certain nombre de choses, mais notre défaut parfois, c'est de ne pas savoir les valoriser et de ne pas savoir communiquer sur ce que l'on fait. Tout simplement, le fait de communiquer, eh bien, ça montre une démarche dynamique vis-à-vis de la ville, mais aussi ça peut donner aussi d'autres idées, ça peut donner des idées aussi à d'autres personnes avec des cas similaires. Donc ça, c'est très important de communiquer vis-à-vis de la presse. Ça, c'est la presse locale ou dans la revue municipale. Donc là, vous avez une photo des nicheurs qui étaient installés au centre équestre. Donc 20 à 30 centimes chacun. Un autre oiseau que les Albigeois connaissent assez bien, c'est le faucon pèlerin. Donc le faucon pèlerin, depuis 2008, donc, nous filmons les faucons pèlerins qui se situent sur la cathédrale d'Albi. On a un couple de faucons pèlerins qui a aménagé un nid sur la cathédrale. Alors, je ne peux pas vous dire le nombre d'années, mais il y a certainement entre 15 et 20 ans que ce couple de faucons pèlerins se sont installés au niveau de la cathédrale. On sait que c'est toujours la même femelle depuis 20 ans, parce qu'elle a une plume blanche sur l'aile droite, donc on arrive à la reconnaître. Et c'est en 2008 qu'avec le partenariat de la LPO, nous avons installé un nichoir, nous avons fabriqué un nichoir et ensuite nous avons installé 2 caméras tout en haut du clocher de la cathédrale. Ces 2 caméras, on a une caméra qui filme uniquement le nid, donc ça permet de voir un petit peu l'évolution de cette espèce, voir son comportement. Et depuis la ponte qui a lieu aux environs du début février jusqu'à l'éclosion des œufs et ensuite jusqu'au départ des petits. Jusqu'à présent, on avait, depuis 2008, environ des couvées de 3 à 4 petits systématiquement. Cette année, on a simplement 2 œufs. Alors, on pense que la femelle commence à être un petit peu âgée, donc on surveille de près un petit peu l'évolution de ce couple. Et donc, l'enregistrement des vidéos sont disponibles sur le site de la ville. et a fait l'objet, le regroupement de l'ensemble des vidéos, a fait l'objet d'un colloque en 2010 à la faculté d'Albi sur le faucon pèlerin. Donc grâce à cette initiative, c'est une, nous connaissons davantage les rites et les mœurs de, du faucon pèlerin. Donc ça, c'est la deuxième caméra qui scrute l'environnement du faucon pèlerin. Donc on peut savoir à quel moment la femelle revient ou le mâle revient avec tel ou tel repas pour les petits. Alors ils mangent aussi bien du moineau que du pigeon. Et pour tout vous dire, c'est plutôt la femelle qui capture le pigeon parce que la femelle étant un peu plus grosse que le mâle, elle a davantage de force pour capturer les pigeons en centre-ville. Et donc les pigeons en centre-ville, quand c'est vraiment la période de nourrissage des petits, j'aime autant vous dire qu'à proximité de la cathédrale, ils n'y restent pas. Parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent servir de banquet pour les petits pigeonneaux. Le coût de l'installation des caméras, à l'époque, je crois que c'était aux alentours des 40 000 euros, avec des aides de l'Europe et de la région. Et donc là, tous les ans, nous avons un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux pour observer les faucons depuis la terrasse du jardin du Palais de la Berbie avec des jumelles. Donc là, la même chose, on accueille des groupes scolaires où le week-end, nous accueillons des albigeois et nous leur expliquons les modalités, nous leur présentons la vie et les mœurs du faucon pèlerin. Donc une fois que les petits quittent le nid, ils restent sur le territoire albigeois jusqu'au mois d'août et ensuite les parents chassent les petits pour un nouvel espace. Alors d'autres oiseaux qui sont maintenant gérés, si je puis dire, par la ville, ce sont les pigeons bisés. Vous savez que la plupart du temps, dans les villes, nous avons une population de pigeons qui est assez importante. Sur Albi, nous avons à peu près 6 000 pigeons. Et ces pigeons peuvent causer aussi des désagréments sur le patrimoine bâti et surtout par les fientes qui sont laissées sur les trottoirs, sur certains espaces qu'il faut nettoyer. Et puis, c'est une espèce qui peut coloniser un certain nombre de bâtiments publics ou privés. Il faut savoir qu'un couple de pigeons, c'est 50 petits par an. Donc vous multipliez par le nombre de couples, vous voyez un petit peu la population à laquelle on peut s'attendre. Donc la ville d'Albi, plutôt que de capturer systématiquement des pigeons tous les ans, elle a choisi une autre méthode. Parce qu'il faut savoir que le fait de capturer un certain nombre de pigeons, en fait, ça crée un appel d'air. Hein, sur une grande population, si vous enlevez la moitié de la population, eh bien, la population restante va avoir davantage de nourriture, va avoir davantage d'espace pour se multiplier. Et donc, l'effet escompté est complètement à l'inverse de ce que vous souhaitez. Nous, on est parti du principe qu'on préférerait gérer le pigeon, fidéliser les colonies de pigeons, et ensuite, on va pouvoir réguler leur population. C'est-à-dire qu'on a construit quelques pigeonniers. On a construit quelques pigeonniers sur le territoire albigeois, dans les parcs et sur les espaces verts, avec comme but de fidéliser une population de pigeons. Il y a peut-être 20 à 30 pigeons qui sont habitués dans ce pigeonnier. Et lorsqu'ils sortent, ils vont attirer les pigeons environnants et ils vont les attirer dans le pigeonnier, tout simplement parce qu'il y a à manger. Si les pigeons rentrent dans le pigeonnier, c'est simplement parce qu'ils ont à manger. Donc, s'ils se trouvent dans un espace confortable en termes de nourriture et de reproduction, eh bien, ils vont y rester. Donc, c'est ce qui se passe. On leur donne à manger 30 grammes par jour de graines, mais en revanche, lorsqu'ils pondent, on enlève les œufs. C'est-à-dire que régulièrement, on passe dans les pigeonniers et puis on prélève un certain nombre d'œufs. De ce fait, les populations de pigeons aujourd'hui vont pouvoir se stabiliser et à long terme, elles vont décroître. Donc ça, c'est une opération que nous menons depuis maintenant 2 ans. C'est une opération qui se passe plutôt bien. Et là aussi, en tant que jardinier, on n'avait pas la science infuse sur la colombophilie. On s'est fait aider par un albigeois qui est colombophile. Et donc, on a profité de son expérience pour mettre en place ce type de gestion.
Aujourd'hui, Monsieur Christian Amiel, responsable en chef des espaces verts de la ville d'Albi, pour la conférence « La prise en compte de la biodiversité dans la gestion des espaces verts de la ville », enregistrée à l'occasion de la 4e journée de la biodiversité qui s'est déroulée le jeudi 27 avril 2017.
Alors, dans un nichoir, dans un pigeonnier, on peut abriter à peu près 200 couples, c'est-à-dire qu'il y a des casiers aménagés avec un petit bol de façon à ce que les pigeons puissent nidifier. Il y en a une centaine par pigeonnier. Donc là, on peut accueillir 200 couples, voire davantage. Et donc j'ai un jardinier qui passe plusieurs fois par semaine pour gérer la nourriture, pour gérer tout ce qui est prophylaxie et bien sûr pour enlever les œufs. Lors de l'installation des pigeonniers, nous avons mis également une signalétique à proximité. Parce que avant d'avoir des questions des albigeois pour nous demander qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi il y a des pigeons qui rentrent, qui sortent, est-ce que c'est normal, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de choses, est-ce qu'on fait de l'élevage de pigeons? Non, on ne fait pas de l'élevage de pigeons. Bien au contraire, on fait de la régulation. Donc on a installé une signalétique auprès de chaque pigeonnier pour expliquer notre démarche. Alors le coût de fonctionnement de ce type de pigeonnier, enfin du moins de l'opération, aujourd'hui, c'est environ 1 500 € par an. 1 500 € de graines et un petit peu de produits vétérinaires. Et en termes d'investissement, un pigeonnier comme celui-ci, c'est 8 000 €. Il y a 2 ans maintenant, nous avons édité également une plaquette sur les oiseaux d'Albi, de présentation de l'ensemble des oiseaux que l'on peut rencontrer dans les parcs et jardins ou sur les territoires albigeois. Donc ça, c'est un document qui a été fait en interne avec le service communication, et puis c'est quelqu'un du service qui a dessiné un certain nombre de croquis, et on a travaillé également avec la Ligue de protection des oiseaux. Donc ça, c'est un document qui est téléchargeable sur le site de la ville, et c'est un document qui a été distribué également à l'ensemble des écoles albigeoises. Oui, je ne vous ai pas dit, également avec les écoles, on fait des ateliers de montage de nichoirs, c'est-à-dire qu'on achète, enfin, on fabrique des nichoirs en kit, et lors des journées environnement, ou lors à la demande des enseignants, on va dans les écoles et puis on fait des séances de montage de nichoirs, hein, soit avec de la colle ou avec des petits clous. Et donc ensuite, les enfants rentrent chez eux avec le nichoir sous les bras. Alors au niveau des insectes, effectivement, sur notre chapitre, on a un certain nombre d'actions. Sur la partie gauche, je vous ai montré sur une précédente diapo des hôtels à insectes. Alors l'hôtel à insectes, je considère que c'est strictement pédagogique. C'est vis-à-vis du public pour expliquer et montrer que les insectes, à un moment donné, ils ont besoin de refuges pour passer l'hiver notamment. Et que les refuges peuvent être très très variés. Ça peut être aussi bien de la paille, des écorces, des poteries, des murs, de pierres sèches, etc. etc. Mais le véritable hôtel à insectes, il est ici. Hein, c'est un fût de chêne que l'on laisse dans le paroche Ugude, qu'on le laisse en l'état, on le laisse dresser parce qu'on a soit du capricorne, qui est un insecte protégé, mais on a aussi d'autres insectes xylophages qui vont pouvoir se développer sur ce type de support, qui sont absolument pas nocifs pour les espaces verts. Hein. Ce sont des insectes qui ne causent aucun préjudice. Mais ils ont aussi un intérêt vital dans notre écosystème. Donc sur la partie gauche, un chêne sur lequel on met toujours une explication, hein, parce que le public albigeois comme ailleurs pourrait nous demander, mais vous avez un arbre mort, pourquoi vous laissez un arbre mort, c'est insensé, qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc cette signalétique pour nous est très importante. Et puis un autre hôtel à insectes dit naturel, ou un vrai hôtel à insectes, c'est lorsqu'il y a des abattages, il nous arrive également de laisser les produits d'abattage sur place. Hein? Parce que là aussi, c'est un endroit idéal pour le développement d'un certain nombre de bactéries, de champignons, mais aussi d'insectes. Ça permet de cette façon-là à recomposer, ou du moins à ménager, tout notre biotope qui a été pendant des années, quelque peu malmenée, parce que dans les parcs, il fallait systématiquement tout ramasser, tout nettoyer, brûler, je dirais presque aseptiser. Et aujourd'hui, on essaie de redonner de la vie, un sens dans notre métier de jardinier, quoi. Nous ne sommes pas simplement là pour embellir, mais nous sommes aussi là pour favoriser la vie. Alors, quelques mots sur les abeilles, parce que sur Albi, nous avons un tout petit rucher. On n'a pas vocation à avoir, à faire une production de miel quelconque, mais nous avons un rucher sur la base de loisirs de Prades-Grossal depuis 2009. Alors, il nous arrive de récolter des essaims à la bonne saison. Il nous arrive que les albigeois nous appellent parce qu'il y a un essaim. Donc, nous récoltons l'essaim. Pourquoi on s'est lancé dans cette aventure ? Eh bien, tout simplement, vous savez que l'abeille traverse une crise profonde et très grave, parce que les populations d'abeilles, des colonies d'abeilles diminuent en France fortement, parce que la production de miel est en chute libre. Il faut savoir qu'on produisait, je crois, 35 000 tonnes de miel, et on est passé à 17, et je crois que l'an dernier, en compte tenu des problèmes climatiques, on est passé à 9 000 tonnes. Donc ce qui est très largement déficitaire, à tel point qu'on achète du miel de Roumanie. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. Mais à travers cette action, on a voulu sensibiliser... Donc depuis 2009, les albigeois, pour dire, les insectes et notamment l'abeille sont en danger, donc il faut les protéger et les valoriser. Donc il nous est arrivé de faire une petite... Alors la récolte de miel, il nous arrive de récolter un peu de miel. Donc on fait quelques petits pots de miel simplement pour la démonstration ou lorsqu'on peut recevoir des groupes. Mais surtout, la majorité de notre production est cédée à la cuisine centrale qui, elle, va faire des gâteaux ou des entremets ou des plats à base de miel de Prades-Grossal. Donc, sur le rucher, nous avons installé une signalétique indiquant les raisons pour lesquelles nous avons mis en place ce rucher. Et c'est une action de communication très importante vis-à-vis des albigeois lors des journées environnement qui ont lieu fin mai, début juin. Parce qu'on s'aperçoit que la plupart du temps, les gens confondent abeilles, guêpes, frelons, bourdons, enfin bon, c'est là... C'est une confusion totale à tous les niveaux, donc ça permet aussi d'expliquer. Et on explique notamment avec les écoles où les enfants vont, je ne vais pas dire manipuler, mais ils peuvent observer l'intérieur de ce qui se passe dans une ruche, l'intérieur d'une ruche, à la bonne saison. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil pédagogique pour pouvoir appréhender toute la problématique autour de l'abeille avec les enfants. Donc, pédagogiquement, c'est la raison pour laquelle on n'a pas vocation à avoir 30 ruches. Hein. On a moins de 10 ruches. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment dans la gamme de l'amateur. Mais pour autant, pour avoir des ruches, il faut les déclarer au service vétérinaire, etc. Et puis là aussi, pour pouvoir suivre un rucher, il faut du personnel compétent parce qu'on ne s'improvise pas apiculteur, surtout aujourd'hui. Donc là, il a fallu déceler dans l'équipe de jardiniers une ou deux personnes qui avaient ce type d'affinité, qui avaient des connaissances, qu'il a fallu former sur le tas. Et donc maintenant, c'est une opération qui est, je dirais, quasiment autonome. Hein. Cette opération est renouvelée tous les ans vis-à-vis du public. Mais là aussi, il a fallu aussi impliquer les jardiniers. Et je peux vous assurer qu'en 2009, ce n'était pas gagné de dire « on met des ruches en ville ». Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez classique et d'assez banal, mais il y a moins de 10 ans, ce n'était pas toujours regardé d'un bon œil, parce qu'on passait un petit peu pour des farfelus. Au travers de l'abeille, en fait, c'est aussi le prétexte de protéger l'abeille, mais aussi de protéger l'ensemble des insectes pollinisateurs, ou du moins l'ensemble des insectes qui, à un moment donné, vont sur les plantes pour s'alimenter, hein, tout simplement. Les insectes pollinisateurs, donc, vous connaissez les bourdons, mais vous avez aussi un certain nombre d'abeilles solitaires, des osmies. Donc ça, ce sont des insectes butineurs et pollinisateurs qui sont très importants. Mais vous avez des insectes qui participent, qui sont dans notre environnement et qui ont vraiment leur raison d'être dans cet environnement. Ce ne sont pas des insectes pollinisateurs, mais ils ont un rôle essentiel. Et donc, chaque fois que l'on fait des plantations d'arbres ou d'arbustes, eh bien, moi, je regarde prioritairement quels sont ceux qui sont intéressants d'un point de vue nectar ou pollen. J'essaie de diversifier une palette végétale et de privilégier à chaque fois des plantes intéressantes d'un point de vue nourricier pour l'ensemble des insectes. C'est-à-dire que sur la diapo de, sur la photo de gauche, on est, vous avez un Lonicera fragrantissima. C'est une plante qui fleurit au mois de janvier-février, qui est très riche en pollen. Donc, vous avez forcément des insectes. Pour eux, en début d'année, c'est très important d'avoir, cette nourriture-là. Donc, on essaie systématiquement d'utiliser des plantes qui, de manière échelonnée, puissent produire un garde-à-manger satisfaisant et convenable pour l'ensemble des insectes. Donc, au travers de l'abeille, on protège aussi les autres insectes pollinisateurs ou les insectes en général. Alors, une autre partie qui est la partie flore, la flore spontanée. Donc là, vous avez une photo d'un bassin de rétention sur le Maranel. Donc le bassin de rétention, comme son nom l'indique, c'est un bassin qui a vocation à stocker les eaux lorsqu'il y a des orages importants. Mais c'est un espace qui fait 2,5 hectares. Donc en plus de stocker de l'eau, on s'est dit, ben, ça serait bien que cet espace ait une deuxième fonctionnalité qui est celle d'un parc urbain. Alors ça ne sera pas un parc urbain style Roche Gude ou Palais de la Berbie, ça sera un parc urbain du 21e siècle dans lequel les riverains vont pouvoir faire un footing, promener le chien ou tout simplement se promener. Donc plutôt que d'avoir des gestions rigoureuses en termes de tonte, on a choisi de faire de la gestion, de faire une gestion différenciée sur les tontes. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du bassin qui n'est pas tondue. Donc là, on laisse les plantes se développer normalement. Mais par contre, il y a d'autres zones que l'on tond régulièrement de façon à ce que le public puisse se promener malgré tout. On sanctuarise pas les espaces. Il faut absolument que les citadins puissent s'approprier ces espaces. Donc ce n'est pas en posant des clôtures, des barrières ou des restrictions qu'on va pouvoir les associer dans cette démarche. Donc pour pouvoir les associer, eh bien, on crée des cheminements au travers de ces tontes différenciées. Et donc, le fait de laisser cette végétation spontanée pousser, on s'est aperçu qu'il y avait une modification de flore très importante et très avantageuse. La tonte est effectuée sur ces espaces qu'on laisse pousser naturellement, elle est effectuée après le 14 juillet, c'est-à-dire qu'une fois que la plante a effectué son cycle biologique. Alors, je vous ai parlé du bassin du Maranel, mais on effectue ce type d'entretien sur un grand nombre d'espaces de la ville, que ce soit les délaissés autoroutiers, que ce soit sur la base de loisirs de Prades-Rossal ou la Mouline, la Guitardier, sur Inoprod. Donc, il y a des espaces qui ne sont pas tondus, qui ne sont pas tondus régulièrement, que l'on laisse pousser. Mais systématiquement, sur ces espaces, là aussi, on indique les modalités d'entretien. Parce que la plupart du temps, vous avez des gens qui vous disent « mais les jardiniers sont venus tondre, mais ils ont oublié une parcelle, ou alors ils ont fait le boulot à moitié, etc. etc. » Donc pour éviter ce genre de réflexion, on met une signalétique. Et on travaille également avec l'Office pour les insectes et leur environnement. Donc c'est une association qui vient, avec laquelle on a un partenariat, et qui vient sur ces espaces faire des relevés et comptabiliser et identifier le nombre d'insectes que nous avions. Donc on s'est rendu compte que depuis 2011 que nous procédons à ce type de gestion, eh bien, la diversité des insectes est beaucoup plus importante que ce que nous avions par le passé. Alors ce sont des relevés qu'on ne fait pas forcément tous les ans, mais on fait tous les 2 ans ou tous les 3 ans, donc cette association intervient pour faire des relevés, et on s'aperçoit que d'une manière générale, la population d'insectes augmente sur ces espaces. Nous avons également découvert une station de Cephalaria transylvanica. C'est un genre de scabieuse, et en fait, on s'est aperçu que c'est une plante protégée. Donc, nous avons une station en albigeois que nous avons découvert. Donc, sur cette station, bien évidemment, on ne pratique pas la fauche. On communique légèrement parce qu'on ne voudrait pas que l'ensemble des personnes puissent aller cueillir, arracher, etc. Cette plante, mais c'est aussi pour vous dire que parfois sur des micro-territoires ou sur un territoire, il peut y avoir des plantes spontanées qui ont un intérêt botanique intéressant. Donc là, sur cet aspect-là, on travaille avec un amateur qui est passionné de botanique et qui nous a permis d'identifier ces différentes stations. Et donc nous, les jardiniers, en pari coché, Eh bien, on s'est mis notamment à ne plus faucher certains espaces à proximité. C'est-à-dire que là, on s'est aperçu qu'il y avait des tapis d'ajuga qui étaient vraiment visités par un certain nombre d'insectes. Et donc là, on différencie également la tonte sur différents espaces. Aussi, actuellement, vous avez un certain nombre d'orchidées qui fleurissent un peu partout sur le territoire communal, dans toutes les villes, hein, certainement. Donc nous avons pris le parti de, plutôt que de les tondre, au contraire, de les valoriser et de communiquer à travers le public. Donc vous voyez que là, on se trouve quasiment en centre-ville. Et lorsqu'on a des stations avec différents types d'orchidées, eh bien, les jardiniers font des petits décrochets avec la tondeuse. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, tondre au travers, etc. Il faut, avec le matériel, on n'arrive pas toujours à protéger. Eh bien, effectivement, à certains endroits, c'est peut-être compliqué de naviguer entre les plantes, mais à d'autres endroits, c'est extrêmement simple. Hein. C'est extrêmement simple. Donc là, on a mis on a différencié la tonte et on va tondre une fois que la plante aura fini son cycle biologique. Et son cycle biologique, d'ici 15 jours, 3 semaines, c'est terminé. Donc on pourra tondre par la suite. Et même sur certains endroits, on a positionné quelques petits piquets pour pouvoir, avant la floraison, les repérer et ne pas les tondre. Donc ce genre de choses a fait l'objet, ce type d'observation a fait l'objet d'un article d'Albimag. C'est une façon, donc l'Albimag, c'est le journal municipal, c'est une façon aussi d'associer les albigeois et de leur dire qu'ils ont un environnement remarquable, protégé, diversifié, et que c'est notre rôle à chacun d'entre nous de le protéger, de le valoriser. Et ça permet aussi d'expliquer, encore une fois, pourquoi certains espaces ne sont pas tondus plutôt que d'autres. Une autre station importante, on s'est aperçu, on a identifié aussi notre station avec de la tulipe sauvage, une tulipe sylvestris. Alors pour ne rien vous cacher, la première année, quand on s'en est aperçu trop tard parce que les pareuses étaient passées. Alors soit l'agriculteur, soit nos collègues de la voirie, hop, ils étaient passés avec les pareuses. Donc ils avaient broyé la plupart des tulipes. Donc on s'est dit, la prochaine fois, ça ne va pas se passer comme ça. Donc depuis, tous les ans, sur cette station, on met une petite signalétique de manière régulière, de façon à demander aux riverains, de demander à nos collègues de ne pas intervenir pour des opérations de fauche. Donc là, l'opération de fauche, elle est différée fin juin, une fois que la plante a fini son cycle biologique. Et c'est des stations rares, parce que sur Albi, autant la céphalaria, nous n'avons qu'une station, et cette tulipe, nous n'avons également qu'une seule station. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument préserver. Mais là aussi, il a fallu un peu de persuasion pour convaincre l'ensemble des personnes, pour dire vous différez la tonte, non, on va procéder graduellement au fauchage. Voilà, c'est un combat un peu de tous les jours, et il faut surtout pas oublier chaque année de remettre le couvert. C'est-à-dire que chaque année, il faut pas oublier de mettre la signalétique, parce que il suffit d'oublier une fois, et je peux vous assurer que les pareuses passeraient. Donc là, jusqu'à présent, on a vu la flore spontanée, sauvage. Eh bien, nous aussi, avec la flore cultivée, avec les plantes cultivées, on crée des petits îlots de biodiversité en milieu urbain. Alors, outre le fait que l'on n'utilise plus de produits phytosanitaires depuis un certain nombre d'années, le fait de planter notamment les pieds d'arbres permet, à partir du moment où on choisit les bonnes plantes, bien sûr, d'avoir un couvert végétal suffisamment important et de ce fait, d'avoir un minimum de plantes adventices. Et je dirais même que s'il arrive que l'on ait une plante adventice au milieu de ce type de composition, sincèrement, ça ne se voit pas. Donc le fait de planter comme ça au pied des arbres sur les boulevards, les avenues, permet de créer des petits îlots dans lesquels vous avez des insectes, vous avez des oiseaux qui vont se nourrir des insectes, vous recréez un îlot de biodiversité. Donc là aussi, je ne sais pas si je l'ai en diapo, mais on met des petits panneaux pour expliquer les raisons pour lesquelles on plante le pied des arbres. Alors le pied des arbres, en ce moment, du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, c'est assez sympa parce qu'il y a de la fleur. Mais souvent au mois d'août, septembre, à Albi, il fait très chaud, c'est moins joli. Et puis en novembre, décembre, janvier, c'est pas super joli non plus. Donc aussi, il faut que les albigeois prennent conscience que la plante a un cycle végétatif et que pour que la période jolie pour que les plantes puissent s'exprimer en période favorable, il faut aussi traverser malheureusement des périodes où les plantes sont un peu moins esthétiques. Donc sur ces espaces-là, au pied des arbres, il n'y a absolument pas d'arrosage. Donc il faut choisir des plantes vraiment qui tiennent très très bien au sec et qui demandent bien sûr peu d'entretien. Dernière partie, le sol. Alors le sol, effectivement, c'est quelque chose que dans les collectivités, on n'a pas toujours peut-être protégé à sa juste valeur. Sur Albi, depuis quelques années, on multiplie les semis d'engrais verts ou de plantes colonisatrices, oui, d'engrais verts, sur les périodes estivales. C'est-à-dire que lorsqu'on a des travaux qui se terminent, par exemple au mois d'avril, mai, juin, plutôt que de planter de manière définitive à une période qui est défavorable, on préfère semer directement, notamment de la phacélie, sur la partie sur la diapo de gauche, ou d'autres engrais comme du trèfle, comme de la navette et des choses comme ça. Donc ça permet aussi d'éviter des problèmes d'érosion, d'éviter des problèmes de ces plantes permettent de fertiliser les sols avec leur système racinaire, d'améliorer la structure du sol. Donc ça, c'est quelque chose de pas très compliqué à faire, mais à partir du moment où on le fait régulièrement, en attendant un aménagement définitif, c'est quelque chose de très valorisant parce que à partir du moment où vous avez de l'engrais vert, vous n'avez pas des adventices embarrassantes qui arrivent, ou du moins si vous en avez, vous en avez beaucoup moins. Et puis sur la partie de droite, notamment, on sème du trèfle blanc dans les espaces caillouteux, certaines allées qui sont peu fréquentées, plutôt que de désherber systématiquement par le passé, eh bien là, on essaie de les végétaliser, et on les végétalise notamment avec du trèfle blanc. Là, c'est pareil, en termes d'entretien, c'est extrêmement simple. Le semis se fait au mois de septembre-octobre, et ensuite, c'est gestion à coups de tondeuse. Et puis, il suffit que les gens passent, vous savez, dans les allées un peu toujours au même endroit. Donc, sur le pas de l'âne, comme on dit, eh bien, il n'y a pas d'herbe. Et sur les à côté, on passe au coup de tondeuse pour finir d'entretenir. Toujours le sol, donc l'utilisation de plantes couvre-sol, encore sur la gauche, et puis l'utilisation aussi de bois raméal fragmenté. Ce bois raméal fragmenté, c'est 800 m3 par an sur la ville d'Albi. Plusieurs qualités. C'est un apport de matière organique important. On garde un maximum d'eau. On évite la pousse des adventices. Et surtout, on évite l'érosion des sols. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc l'utilisation de plantes couvre-sol ou de bois raméal fragmenté, on l'utilise aujourd'hui de plus en plus. Et on utilise aussi de plus en plus quelque chose qui est tout bête, c'est les déchets de tonte. C'est quand même assez bête d'avoir un produit à fort potentiel de paillage, à fort potentiel d'alimentation des plantes, et de le jeter systématiquement en déchetterie pour lequel on paie. Donc plutôt que de payer et de l'exporter en déchetterie, moi je préfère réutiliser les déchets de tonte, soit dans les massifs arbustifs, soit même dans les massifs d'annuels. Alors ça, je peux vous dire que c'est une action qui n'a pas fait du tout l'unanimité au début quand j'ai proposé ce type d'action, parce que les jardiniers, on avait l'habitude d'avoir des massifs propres avec de la terre, colombinés, etc., etc. Donc ça, il a fallu batailler un petit peu pour le mettre en place. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que les jardiniers ont essayé ce type d'action, eh bien, ensuite, c'est eux-mêmes qui proposent et qui renouvellent ce type d'opération. Comme quoi, des fois, il faut insister. Et puis, dernière petite chose, ça, c'est en lien avec le sol, mais aussi en lien avec la préservation de la biodiversité. Nous avons travaillé l'hiver dernier avec une association qui s'appelle Pétaniel, qui valorise les anciennes variétés de blé locales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a dans notre patrimoine régional une grande quantité de blé ancien qui sont en perdition, qui sont en voie de disparition, tout simplement. Et ce sont des plantes qui ont de grandes qualités pour faire du pain, pour être panifiables, et pour lesquelles vous n'aurez pas de problème d'allergie avec le gluten. Donc, on a travaillé avec eux sur 4 variétés de blé que nous avons semées sur 6 stations en ville à Albi. Et donc, ce sont des petites stations de semis de blé. Ces stations ont pour vocation donc de pouvoir cultiver ces anciennes variétés de blé. Au mois de juillet, on va les récolter. on va les rendre à l'association Les Pétanielles avec un espoir de pouvoir à terme cultiver ces vieilles variétés de blé à une échelle beaucoup plus importante avec des agriculteurs. Donc ces différentes collectivités ou des particuliers qui mettent en place ce type de culture pour pouvoir un jour ou l'autre constituer un stock de semences important de façon à pouvoir le cultiver à grande échelle. Je vous remercie de votre attention.
Christian Almiel, responsable en chef des espaces verts de la ville d'Albi, pour une conférence autour de la prise en compte de la biodiversité dans la gestion des espaces verts de la ville d'Albi, enregistrée par Radio Albiges le jeudi 27 avril 2017 à l'occasion de la 4e journée de la biodiversité. Tout de suite, place aux échanges avec le public.
Merci, merci Monsieur Almiel. À l'attention de tous les élèves qui sont en travaux paysagers, le métier de travaux paysagers, vous voyez, c'est complètement ouvert hein, à des préoccupations qui sont tout autres que, enfin, qui sont en plus de la gestion des espaces traditionnels. Alors, est-ce que on va prendre un temps maintenant de questions ? Il y a des micros dans la salle. Voilà. Donc, quels sont ceux qui ont des questions à poser par rapport à ça ? Vous avez une personne là.
Bonjour, Anaïs Zimmerlin, Asconi de consultant. Vous avez parlé de biodiversité au sein de sites particuliers, par exemple Prat-Grossal, La Mouline, etc. Mais est-ce qu'il y a une réflexion à l'échelle de la commune pour assurer un continuum entre ces espaces ? Bon, la tonte différenciée peut assurer cela, la végétalisation des pieds d'arbres également. Mais est-ce qu'il y a d'autres types d'actions menées en ce sens ? Par exemple, la pose de gîte à chiroptères, est-ce qu'il y a une réflexion sur la trame noire ? Enfin, voilà, je voulais savoir ça. Merci.
Alors, on travaille aussi avec la communauté d'agglomération, hein, parce qu'actuellement, il y a la réécriture du PLUI. Donc, effectivement, on travaille avec eux, et notamment dans cet outil, on a les différentes trames vertes, bleues, noires, brunes. Et donc là, on est en train de travailler là-dessus. Mais effectivement, oui, on lit tous nos travaux avec le PLUI, même si je dois vous dire et bien reconnaître qu'on ne travaille pas à la même vitesse. C'est-à-dire que, voilà, mais on travaille ensemble, tout à fait.
Juste une précision pour nos élèves là, qui, je pense, n'ont pas entendu parler de ce qu'était une trame noire, trame brune, pour qu'ils donnent un peu, pour savoir. C'est vrai que c'est des sujets dont on leur parle, mais qui n'ont pas de d'image, ils n'ont pas de notion. Est-ce que vous pourriez en dire deux mots là ?
Trame verte et bleue, donc trame verte c'est tout ce qui est végétal, trame bleue c'est tout ce qui est en lien avec l'eau, la trame noire c'est en lien avec l'éclairage public, parce que vous savez qu'aujourd'hui dans les collectivités on essaie de réduire l'éclairage public, du moins l'éclairage vers le ciel, parce que ben, y a un certain nombre d'insectes, un certain nombre d'oiseaux qui sont inféodés à la vie nocturne, et à partir du moment où l'espace est éclairé, eh bien, ces animaux-là ne sont plus présents dans ces espaces. Donc effectivement, on essaie maintenant de trouver de nouveaux systèmes d'éclairage pour uniquement éclairer le sol. Pour votre information, sur Albi, on a ce système d'éclairage qui est mis en place sur le boulevard Carnot et avenue Gambetta, sur le début de avenue Gambetta. Et la trame brune, eh bien, ça concerne tout ce qui est sol.
Et donc ça demande une coordination au niveau, c'était l'abus de la question, coordination entre les différentes collectivités et puis sur les espaces. Hein, et ceux qui travaillent en particulier chez des particuliers, on a un désir aujourd'hui de les faire insérer plus ou moins dans cette trame-là ou dans cette réflexion. On n'a pas un jardin qui est isolé à un endroit, mais un jardin qui est inséré dans l'ensemble de la ville.
Alors je dois dire aussi que ce sont des petites actions, ça peut paraître des petites actions locales, mais qui font, si je puis dire, boule de neige. Hein. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des collectivités au sein de la communauté d'agglomération qui viennent se renseigner pour agir de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose, pour faire l'émulation, c'est très important. Et puis, je dois dire aussi que pour nous, en tant que techniciens du service des parcs et jardins, il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est le soutien des politiques. Si vous n'avez pas le soutien des politiques, à un moment donné, vous ne faites rien en tant que technicien. Donc il faut vraiment que le soutien des politiques soit présent. C'est le cas à Albi, où on a la chance de pouvoir travailler chacun dans son rôle, dans ses prérogatives. Et Donc, on est soutenu par les politiques pour mettre en place un certain nombre d'actions liées à l'environnement ou liées au jardin ou par rapport à notre métier. Mais ça, ce tandem politique-élu, politique et technicien est extrêmement important.
Est-ce que vous avez des nids à hérisson ou coccinelle?
Des nids à hérissons, pas encore. Des refuges à coccinelles, oui, on essaie de mettre... Enfin, je crois qu'il y avait une diapo avec une photo d'un refuge à coccinelles ou à cirfe. Il faut savoir que les hôtels à insectes sont un refuge à coccinelles important. Et même, on a retrouvé des colonies de coccinelles dans certains nichoirs à Mésange. Mais dédiés, pour les coccinelles, oui. Pour les hérissons, non. Pas encore.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question très importante? Voilà. Non, monsieur Labbé.
Oui, Joël Labbé. Juste une remarque, c'est la première fois que j'entends une ville dire qu'elle cultive aussi, certes sur des petits endroits, des variétés anciennes de blé. Je trouve ça, d'un point de vue intérêt pédagogique et intérêt nouvelle culture, justement, extrêmement intéressant.
Merci.
Super. Mais peut-être on va conclure. Oui.
Vous avez une question?
Bonjour. Quel est votre budget pour la biodiversité?
Sincèrement, je n'ai pas de budget de biodiversité. Je peux vous assurer. Il y a un certain nombre d'actions, comme je le disais tout à l'heure, qui ne coûtent pas énormément. Ce n'est pas un problème de budget. Pour faire les nichoirs, c'est 400 euros par an à peu près. Pour ce qui coûte le plus cher en termes de, si je peux appeler biodiversité, c'est tout ce qui est PBI, protection biologique intégrée. Les lâchers de coccinelles, ça c'est un peu plus onéreux. Mais ensuite, la plupart des... Tondre ou ne pas tondre, ça ne coûte pas plus cher. Même je dirais que ça coûte moins cher. Il faut parfois du matériel spécialisé, mais ce n'est pas forcément en lien avec la gestion différenciée. C'est en lien avec l'augmentation de nos espaces, de nos surfaces d'espaces verts à gérer et avec la stagnation de nos effectifs. Donc, il faut trouver des méthodes de gestion qui permettent de concilier un petit peu tout. En termes de budget, je vous l'ai dit, sur les différentes actions, c'est vraiment pas très important, que ce soit pour les hirondelles, pour les abeilles. En gros, c'est 200 euros par an. Voilà, si ça a été un peu plus important la première année lorsqu'on a acheté les ruches, mais ensuite, dans la continuité, c'est en termes de budget, ce n'est pas ça qui est vraiment prépondérant.
Oui, je compléterai en disant, moi, ce que j'ai entendu, c'est que le budget, ce n'est pas en termes du budget, c'est en termes d'énergie. L'énergie qui est la plus importante, c'est convaincre les gens, former les gens, permettre à chacun de prendre conscience un peu des enjeux qui se jouent. Et pour avoir eu des élèves, c'est un peu compliqué des fois de leur faire prendre conscience des enjeux qu'il peut y avoir à évoluer vers de nouvelles pratiques, parce que c'est facile de pratiquer ce qu'on sait faire, mais accepter d'évoluer vers quelque chose, c'est là où l'énergie est la plus importante. Voilà, mais on va conclure et puis remercier monsieur Amiel pour cette intervention. Voilà.
C'était l'émission Conférence sur les ondes de Radio Albigès, avec aujourd'hui Christian Amiel, responsable en chef des espaces verts de la ville d'Albi, qui nous présente une conférence sur la prise en compte de la biodiversité dans la gestion des espaces verts de la ville d'Albi. Enregistré par Radio Albigès, partenaire de la 4e journée de la biodiversité qui s'est déroulée sur le campus Albi-Fonds-Labour le jeudi 27 avril 2017. N'hésitez pas à réagir par mail à radioalbiges@gmail.com. Bonne écoute et à bientôt sur les ondes.